On va parler maintenant d'approche éco-santé de l'aménagement des toits avec Louise Vandelac. Louise Vandelac, vous êtes professeure à l'Université du Québec à Montréal, à l'Institut des sciences de l'environnement, et vous êtes une référence en la matière. Tout le monde attend avec impatience votre exposé, qui sera court, je suis désolé, de 10 minutes, c'est le temps imparti à chacun. Je veux bien vous concéder une ou deux minutes de plus, mais ce ne sera pas... C'est Franck Boutet qui a déjà tout pris ce matin. Vous avez de quoi connecter votre ordinateur ?
Oui, ça devrait aller.
Ça devrait aller ?
Ça devrait aller dans la minute. Voilà.
Bon. Alors, en fait, c'est un duo ?
Oui, ça va être un duo. En fait, cette question d'éco-santé, je vous dis en deux mots l'essentiel de la présentation. J'ai tenté d'abord de faire quelques rappels sur les grands enjeux environnementaux pour qu'on prenne bien la mesure de l'ampleur des changements en cours. Deuxièmement, il me semblait essentiel de rappeler quelques éléments de l'approche éco-santé pour montrer à quel point nos systèmes de santé sont des systèmes de soins et non pas des systèmes de santé, et qu'à partir du moment où on intègre les questions d'énergie et de santé, ça implique de revoir l'ensemble des mécanismes publics de décision, d'évaluation, ce qui est absolument nécessaire, et aussi d'intégrer ces questions d'évaluation scientifique et sociale dès le moment de l'élaboration des alternatives. Voilà, j'ai terminé.
On y arrive, on y arrive.
Okay. Bon,
c'est bon. Bon,
écoutez, ça va.
C'est celui-là ?
Non, mais c'est pas grave. On va y aller. rappelons très rapidement ce qui fait en sorte qu'on se retrouve d'ici 2030 dans une situation d'urgence absolue, c'est-à-dire notre entêtement et aussi l'absence de réaction au rapport Halte à la croissance des années 70. Tous les indicateurs étaient déjà assez bien signifiés et il nous reste à peu près une marge de 20 ans pour pouvoir rapidement intervenir. Des rappels rapides sur l'ampleur, le rythme des changements climatiques. On voit cette importance. On voit ici l'importance de ne pas dépasser 2 degrés parce qu'il y a des effets d'emballement qui risquent de se produire. Mais il faut bien voir que déjà, quand on regarde, et nous, on est particulièrement sensibles au Québec à ces questions-là, quand on regarde les risques de libération du méthane, qui c'est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2, et il y a des réservoirs de méthane absolument immenses, la question mérite d'être posée avec toute l'urgence qui convient. Il y a évidemment épuisement des réserves énergétiques. Je ne vous demande pas de lire tout ça, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que d'ici 50 ans, du côté du pétrole, 60 ans du côté des réserves de gaz, les réserves de charbon peut-être 100 ans, mais compte tenu de leurs effets pervers, c'est peut-être mieux de ne pas les exploiter jusqu'à la fin. Le pouvoir nucléaire, comme vous le savez, il y a un déclin dans certains pays, le Japon notamment, l'Allemagne. Le pouvoir hydroélectrique, ça dépend beaucoup de la pluviosité et les problèmes de sécheresse font en sorte que ce n'est pas toujours évident. Ici, évidemment, la façon d'entrevoir les questions habituellement, c'est de dire « Ah, c'est un problème de surpopulation », ce à quoi je réponds toujours « Et vous dans la salle, est-ce que vous êtes de trop ?» En fait, la surpopulation se pose toujours pour les autres et il faut bien voir que le problème est d'abord un problème de surconsommation et de production sans regard suffisamment fin par rapport à la consommation d'énergie, la consommation de ressources. On voit très bien, non, vous voyez sans doute pas, comment les pays à revenus élevés consomment beaucoup, beaucoup plus que les pays en voie de développement. Et on le voit ici de façon encore beaucoup plus claire quand on parle de l'empreinte écologique et de la biocapacité par région. On constate à quel point certains nombres de pays, notamment les pays d'Amérique du Nord, dépassent de loin leur biocapacité, alors que d'autres, comme l'Amérique latine et les Caraïbes, sont nettement en dessous, ce qui nous donne cette espèce de figure que vous connaissez sans doute, qui permet de voir d'un coup d'œil l'obésité du monde. ou d'un certain monde. Ce schéma est sans doute le plus simple et le plus clair pour parler de l'état de la planète actuellement, c'est-à-dire l'indice de planète vivante qui est en déclin et l'empreinte écologique de l'humanité qui a dépassé les bornes. Donc, nous nous retrouvons dans une situation de surexploitation et le temps qui nous est imparti pour pouvoir faire une transition est relativement court. Parmi les événements qui font en sorte qu'il y a lentement une sensibilisation de la population, il y a les événements extrêmes, appelés encore dans presque tous les téléjournaux ou les journaux télévisés, des tempêtes, mais sans faire le lien avec cette augmentation des événements extrêmes. Autrement dit, on le prend encore pour « act of God », comme on dit aux États-Unis, mais c'est en fait très lié à l'ensemble des effets pervers déjà observables de l'augmentation de la température, notamment. Et on voit que parmi les problèmes qu'on aura à affronter, il y a le gonflement des mers, les inondations des zones côtières, des réseaux d'eau, d'assainissement, les ruptures de stocks alimentaires. Pour les populations et pour les questions de santé, c'est parmi les choses les plus significatives, les plus importantes. La hausse des catastrophes climatiques touche environ 260 millions de personnes par an. Et ici, vous avez un schéma rapide. Nous, on se retrouve le petit point noir. Autrement dit, on ne voit pas ce qui se passe dans le monde parce que nous sommes relativement peu impactés pour l'instant par l'ensemble de ces changements. Ces changements touchent d'abord et avant tout les pays du Sud actuellement. Mais on voit très bien la courbe croissante et c'est des coûts d'à peu près 80 milliards américains actuellement qui y sont liés. On voit ici que le plus grand problème, c'est celui des inondations. M'excuse, je fais du mal à faire la traduction. Des inondations et des tempêtes et des sécheresses. On le voit par région. Pour parler de santé, il faut d'abord comprendre que les questions de santé sont étroitement liées aux services des écosystèmes. Et les services des écosystèmes, ce qui est une formulation que je trouve assez discutable au plan pédagogique, mais c'est celle qui est retenue à l'échelle internationale depuis quelques années, c'est des services d'approvisionnement, de régulation, de support, qui permettent, je dirais, à la fois de maintenir la santé, mais qui permettent aussi d'assurer la base matérielle minimale. C'est important de le voir aussi en négatif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les pressions humaines sont trop importantes, notamment les changements climatiques, la dégradation des terres, la désertification, la perte de biodiversité, ça a des impacts directs sur la santé des populations. Et il est extrêmement important de comprendre ces liens très étroits. Évidemment, la façon dont on aborde les questions de santé habituellement, y compris à l'OMS, c'est de parler de déterminants de la santé, ce qui déjà est un pas, je dirais, qui va un peu plus loin que la confusion entre système de santé et système de soins. Néanmoins, les déterminants de la santé, quand on regarde cette série, c'est vraiment les revenus, les conditions sociales, l'environnement physique qui sont les éléments les plus importants. Sauf que l'essentiel des budgets de l'État, c'est les services de santé. Et l'essentiel de la recherche, c'est du côté du patrimoine biologique et génétique. Donc, il y a nécessité d'inverser complètement cet ordre des choses pour pouvoir commencer à parler de santé et non plus de soins. Il y a un changement de paradigme absolument essentiel à faire. Évidemment, cette liste-là ne doit pas être faite sous forme de liste, mais sous forme d'interaction, puisque la santé des individus ou des populations est liée à la fois au développement de l'enfant, à l'environnement, aux conditions de travail, etc., tous ces éléments étant étroitement reliés les uns aux autres. Cet acétate montre comment il est important de comprendre les déterminants de la santé de l'écosystème et des êtres humains pour pouvoir améliorer la santé et comment il est important d'intervenir du côté des politiques et de la gestion des ressources mêmes. Je dirais que cela aussi c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'il faut désormais, à la lumière de ce qui se fait du côté du biomimétisme, de ce qui se fait depuis 20 ans, mais avec très peu d'applications encore du côté de l'écologie industrielle, commencer à penser à la production propre, puisqu'une partie importante des problèmes de santé dans nos sociétés sont des problèmes de santé chronique. Or, ces problèmes de santé chronique sont étroitement liés à l'ensemble des contaminants que nous avons produits, et je dirais dans trois générations différentes. D'une part, un certain nombre de produits chimiques de synthèse, trop peu et trop mal évalués, ou évalués beaucoup trop tardivement. Actuellement, il y a certains de ces produits, je dirais, sous forme d'OGM qui posent également problème, puisqu'ils sont très étroitement liés aux pesticides. Et d'autre part, on commence avec une autre génération qui est celle des nanotechnologies. Donc, ça implique une approche plus globale qui implique d'améliorer la qualité de l'air, la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, la biodiversité, et de pouvoir réduire l'épidémie de maladies chroniques et ses sources majeures, dont les substances toxiques, pour épargner les coûts. Autrement dit, vous savez que dans nos États, les budgets de santé, c'est de 40 à 45 % du budget de l'État. C'est une ponction énorme qui entrave les transformations et les transitions absolument nécessaires à amorcer. Or, intervenir sur les coûts épargnés permet de pouvoir réaffecter ces éléments-là, et ça implique d'intervenir globalement sur les stratégies de production. Ça implique également de renforcer, avant la mise en marché, les dispositifs d'évaluation scientifique et sociale avec une contre-expertise indépendante. Et d'articuler éco-santé et éco-énergie, et je fais ça rapidement, ça implique, par exemple, dans les bâtiments existants, mais aussi dans les projets de construction, d'intégrer de façon optimale, selon les stratégies d'occupation, pour accroître la densité urbaine et donc freiner l'étalement, faciliter la transition énergétique, réduire les coûts d'énergie, chauffage, climatisation, augmenter la durée de vie de la toiture et la valeur du bâtiment, réduire les îlots de chaleur et les impacts sur la santé, faciliter l'agriculture urbaine, la sécurité alimentaire, gérer les eaux de pluie, hausser la qualité de l'air, la biodiversité, renforcer la convivialité, passer en fait de la densité à la dense cité. Autrement dit, introduire le ludique dans tout ça, parce que sinon on n'y arrivera pas. Du côté de la transition énergétique, il faut bien voir que, et là je vais passer sur ces acétates, les régimes d'énergie contribuent largement à l'organisation sociale, et dans la troisième révolution de Rifkin, il souligne comment il est important de passer à une transition vers des énergies renouvelables, réduire l'empreinte écologique, opter notamment pour des maisons passives, production et circulation énergétique latérale, vers l'économie verte, etc. Son ouvrage permet de voir comment il est possible de faire cette transition, ce qui peut être un élément intéressant. Mon collègue Éric Duchemin vous parlera des toits verts. Je voulais tout simplement souligner que souvent on parle des toits verts de façon, des toits verts sur les maisons qui sont des toits verts plus conviviaux. Il y a aussi des expériences commerciales et des expériences institutionnelles. J'en donne deux exemples, dont Lula Farm, qui est la première ferme de serre commerciale sur toit au monde. Parmi les autres éléments dont il faut peut-être prendre conscience, il y a les toits blancs. Ici, quelques images de Grèce pour souligner que c'est une vieille stratégie, en quelque sorte. En bas à gauche, c'est des toits de Californie, et à droite, c'est pour montrer que les toits enneigés permettent déjà de remplir cette fonction une partie de l'année. Parmi les estimations, 1000 pieds carrés de toiture peinte en blanc pourraient sauver 10 tonnes de dioxyde de carbone, soit une automobile pendant un peu plus de 2 ans, ce qui pourrait vouloir dire à l'échelle des États-Unis, selon ses calculs, 2 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, soit 20 millions d'autos pendant 20 ans. Un collègue m'a approché pour qu'on transforme nos propres toits en toits blancs réfléchissants, je m'excuse. Et c'est un nouveau système qui existe aux États-Unis. C'est une résine hyper élastique qui a été développée pour les réservoirs des fusées. et qui pourrait offrir une durée de vie de 50 ans à un prix minime tout en renvoyant 85% de la masse de chaleur dans l'espace, réduisant de façon importante les îlots de chaleur. Sauf que, évidemment, à travailler sur les questions de santé, ma première question sera de voir quelles sont les substances qui sont utilisées et de voir au plan toxicologique quels sont les impacts potentiels, puisqu'il faut vraiment privilégier désormais les interactions entre tout ça. Ici, on a d'autres exemples sur les toits blancs. Je passe vite. Alors,
rapidement.
Le défi, c'est vers l'intégration des fonctions. Actuellement, nous avons sur les toits des systèmes d'aération, de climatisation, de refroidissement. Il y a eu un épisode récemment au Québec de légionellose liée à des problèmes de tours de refroidissement mal entretenus, une dizaine de cas de mortalité et des dizaines et des dizaines de patients. Il y a les problèmes des antennes des champs électromagnétiques, les toitures noires qui sont souvent goudronnées avec les problèmes que ça implique. Donc, analyse des impacts sur la santé, notamment parce qu'il y a désormais un problème sérieux d'hypersensibilité. C'est une question qui, règle générale, peut aborder. Mais compte tenu de la contamination chimique globale, les personnes électrosensibles et hypersensibles, qui sont hypersensibles aux impacts cumulatifs des produits chimiques notamment, ça représente en Californie 16% de la population et selon Statistique Canada, 5% au Canada, alors que les coûts estimés seraient de 22 milliards de dollars par an au Canada seulement. Et les problèmes de santé de ces citoyens sont tels que ça devient extrêmement sensible. Alors, dans un cas comme celui-là, est-ce que les toits pourraient être une alternative possible par rapport aux problèmes déjà présents dans les maisons? Est-ce qu'au contraire, il faut faire en sorte que le développement de notre présence accrue sur les toits se fasse dans de telles conditions qu'on prenne en compte ces types de problèmes? Et je vous laisse sur ces images que je trouvais intéressantes. C'est une nouvelle génération de capteurs d'énergie solaire efficace où on dit que ça pourrait, par son système optique, d'intégration énergétique, faire en sorte qu'on puisse absorber la lumière du soleil jusqu'à 10 000 fois et même la lumière de la lune pour des applications photovoltaïques et thermiques. Donc, ça me semblait intéressant et on voit déjà différentes formes d'applications et même l'intégration au sein du bâtiment. Là-dessus, je vous laisse. Merci.
Merci beaucoup, Louise Vandelac.